toute la beauté, non, je ne me perdrai pas. Sinon pour un je ne sais quoi qu'on trouve par aventure. La saveur des beautés qui passe, souvent le mieux qu'elle fait. Elle ravage les palais et ne laisse que des crevasses. Aussi pour nulle créature, oh non, je ne me perdrai pas. Sinon pour un je ne sais quoi qu'on trouve par aventure. Non, jamais le cœur généreux ne veut
désormais. Vous écoutez à l'école de l'Oraison, le balado des écoles carmélitaines d'Oraison du Québec, saison 2025-2026, intitulé L'Oraison, racines, fleurs et fruits, 7e épisode, mars 2026, pauvreté et liberté. Cet enregistrement a été réalisé lors de la soirée mensuelle sur Zoom. Vous pouvez suivre l'actualité des écoles d'Oraison sur le site www.lecarmel.org, section Frères, onglet Activité. Bonne écoute.
Il a le goût si transformé qu'à tous les goûts il défaille. Celui dont l'amour est brûlure a le dégoût de ce qu'il voit. Il désire un je ne sais quoi qu'on trouve par aventure.
Eh bien voilà, bienvenue à chacun et à chacune pour cette soirée d'Oraison. Cet enseignement, bienvenue à ceux et celles qui nous écoutent en balado quelques jours après, sur notre thème racines, fleurs et fruits. Je voudrais ce soir avancer sur un thème qui est présent chez Thérèse d'Avila. Elle entraîne dans le chemin de perfection, elle parle du détachement. Je vais directement parler de la pauvreté et je vais intituler cette rencontre « Pauvreté et liberté ». Alors, je vais avancer quelques éléments, quelques pistes, ce ne sera certainement pas complet, ça n'a pas la prétention de l'être. Et s'agissant de Thérèse d'Avila, je disais à l'instant que dans le chemin de perfection, elle évoque trois vertus importantes. Hein, nous en avons parlé en décembre et en janvier, nous disions que les vertus, bah justement je ne les avais pas avancées en parlant de vertus, parce que je n'étais pas parti dans un propos de morale, j'étais parti dans cette question des forces pour notre vie, de ce qui en nous promeut, sauvegarde, encourage, permet à la vie de se déployer. Mais ça revient à parler des vertus finalement. Et c'est assez remarquable que Thérèse d'Avila, dans le chemin de perfection, propose trois vertus qui sont le détachement, l'humilité et l'amour mutuel. C'est un peu étonnant parce que ça sort complètement de nos cadres habituels, je l'avais déjà évoqué. Pourtant, je ne vais pas directement parler du détachement, ou plutôt, si, je vais parler du détachement, et parce que j'aimerais faire sentir que la pauvreté n'est pas ce qu'on pourrait de prime abord penser, ou plutôt, on ne pense pas de prime abord que la pauvreté puisse être une vertu. On en parle de la pauvreté, on en parle dans l'Évangile, on en parle durant le carême, on en parle en plein d'occasions. Et puis on en parle suffisamment pour comprendre que cette pauvreté dont on parle dès la première béatitude, c'est pour ça que je parlais du carême, puisqu'après tout, ça vient très vite dans notre parcours de carême, les béatitudes. Cette pauvreté n'est certainement pas la misère, et que même s'il est arrivé qu'on dise des choses absurdes, y compris dans l'Église, ça arrive, on reste des êtres humains, dans le fond, il n'a jamais été question de canoniser, de mettre comme un idéal la misère, de mettre dans un idéal, en idéal une exposition excessive aux besoins, etc. On n'est pas du tout là. Il reste que la pauvreté dont on parle, par exemple, lorsque on essaie un petit peu de comprendre ce que peut bien vouloir dire cette béatitude de la pauvreté. Cette pauvreté est tout de même est souvent mise en résonance avec, par exemple, la sobriété. Alors là, je prends quelque chose qui est un petit peu, qui d'une part a une dimension politique et sociale, et puis qui n'est pas forcément directement chrétien, même si ceux et celles qui promeuvent beaucoup aujourd'hui la sobriété, la simplicité volontaire, beaucoup de choses de ce genre, sont souvent inspirés par l'évangile. Pour parler de la pauvreté, et ça me vient au moment où je le partage, puisque je suis dans la vie religieuse, c'est quelque chose dont on parle souvent, et l'un de ceux qui a les propos les plus pertinents là-dessus, c'est le frère Roger, qui dit une chose assez, assez simple, et je crois que tout le monde peut comprendre, religieux, laïque, marié, célibataire, qu'importe, on est tous concernés par cela, la pauvreté n'est certainement pas la capacité à se suffire de peu, ce qui est une chose, c'est une bonne chose, c'est la sobriété. Mais la pauvreté comprise comme cela, et là frère Roger pointe spécialement les religieux et religieuses, la pauvreté conçue comme une façon de ne dépendre de personne est en fait une forme d'égoïsme. Tout simplement. Dans le cadre de la vie religieuse, et ça c'est l'expérience de frère Roger qui parle, quand je l'avais découvert il y a 15 ans, je m'étais dit, il y a plus que ça, il y a 20 ans, je m'étais dit, ça a bien du bon sens. Il y en a tellement parmi nous, les religieux, religieuses, qui pratiquent une forme de pauvreté qui en fait consiste à ne dépendre de personne. Alors comme en plus je suis économe dans ma communauté depuis 20 ans, je suis dans une position très intéressante où je suis régulièrement confronté à des religieux de ma communauté ou des religieux religieuses d'autres communautés qui prétendent vraiment vivre la pauvreté, puis je veux bien le croire, mais lorsque je les écoute, je réalise que la pauvreté consiste surtout pour eux à n'être en charge de rien, à ne répondre de rien, et à se contenter du peu qu'on leur donne pour ne pas avoir à demander et pour ne pas finalement avoir à exposer des besoins, des fragilités, des vulnérabilités, etc. Et vous comprenez que si je dis les choses ainsi, dans le fond, c'est pareil dans une vie de couple, de famille, d'amis, etc. On peut avoir une façon de concevoir la pauvreté qui finalement consiste en se contenter du moins possible ou de ce qui nous est à proximité, de façon à finalement limiter les interactions, dans un premier temps, puis dans un deuxième temps, éviter au maximum la dépendance. Or, et ça c'est quelque chose qu'on sait même dans nos sociétés occidentales, la pauvreté c'est d'abord être dépendant. C'est la vraie pauvreté, les gens qui sont pauvres, et là je parle de pauvreté matérielle, mais on pourrait aussi parler de pauvreté psychologique ou morale, ou que sais-je, sont des gens qui dépendent des autres. Alors ériger la pauvreté finalement comme un idéal pour se mettre à distance, on n'est pas parti dans la bonne direction. C'est un peu une parenthèse que je fais là, mais elle me sert pour évoquer ceci que lorsqu'on parle de la pauvreté et lorsque Thérèse parle du détachement, on parle de quelque chose à quoi on peut travailler. Parce que Thérèse insiste là-dessus, le détachement est quelque chose à entreprendre. J'avais déjà dans l'idée de vous proposer ce thème, pour certaines raisons, et une raison supplémentaire s'est ajoutée à cela, c'est que dimanche passé, j'étais à Québec, au théâtre universitaire, à Laval, pour écouter le dialogue des Carmélites, que peut-être certaines d'entre vous connaissent, pour l'écouter, puisque c'était en version opéra de Francis Poulenc, et je regrette beaucoup de ne pas l'avoir fait savoir plus tôt. C'était donc des étudiants à différents degrés de la faculté de musique qui sont tous inscrits à l'atelier d'opéra. Donc ça rassemble des jeunes qui sont baccalauréat, la maîtrise, voire doctorat, mais ça rassemble une petite gagne. Ils ne sont pas nombreux à ajouter à leur bagage l'opéra. C'était donc un travail universitaire, finalement. C'était saisissant. C'est absolument saisissant. Si vous ne connaissez pas le dialogue des Carmélites, je vous conseille de vous débrouiller pour le lire, puisque c'est d'abord un texte que Bernanos a laissé à sa mort. Je vous conseille aussi de regarder le film du révérend Brugberger, puisque c'était la commande qu'il avait faite, et il a monté le film suite à ce qu'il a trouvé qui était presque fini du reste, dans les papiers de Bernanos dans les années 50. Il a fait un film qu'on trouve même sur YouTube, je pense. Et puis, Francis Poulenc, à la même époque, a fait un opéra, qui est l'un des plus beaux opéras du répertoire non seulement français, mais du répertoire toutes langues confondues. C'est un sommet. C'est un sommet parce que c'est aussi un sommet spirituel. Dans cet opéra, ou au moins dans ce film, ou dans cet écrit, si vous le lisez, il y a une très belle rencontre de la vieille Carmélite, la mère de Croissy, avec la jeune noble, Blanche de la Force, qui veut rentrer comme carmélite. On se situe juste avant la Révolution française à Compiègne. Et rencontrant donc cette prieure très âgée, la jeune aspirante lui dit comme il doit être doux de se sentir si avancé sur la voie du renoncement, de telle sorte qu'on ne saurait plus retourner en arrière. La mère de Croissy est très âgée, elle va mourir du reste peu de temps après. Et celle-ci, qui d'ailleurs a un tempérament tel qu'elle ne peut pas s'empêcher de briser toutes les illusions de la pauvre jeune Blanche de la Force, lui dit, lui chante, dans la version de Poulenc, mais que le vrai renoncement, le vrai détachement, c'est d'être détaché de tout et surtout de ce renoncement, c'est-à-dire de soi-même. Alors là, on rejoint tout à fait Thérèse Avila, qui ne le dit pas comme ça, mais pourquoi je cite cela, c'est que s'agissant de pauvreté, s'agissant de renoncement, c'est des choses qu'on peut et qu'on doit entreprendre soi-même. Nous avons tous et toutes, alors évidemment j'ouvre un champ très grand quand je dis cela, nous avons tous et toutes des choses auxquelles il nous serait bon de renoncer. Ce n'est pas d'abord des choses matérielles, bien évidemment. Seulement, à s'y mettre, on constate tout de suite que ce n'est pas une chose facile. Alors il y a là tout un champ qui est de l'ordre à la fois de la psychologie, de la morale, de la relation, etc. Mais je garde cette idée, je garde cette réalité, ça n'est pas une idée, cette réalité que quelle que soit la façon dont on est conduit dans notre vie à cela, et on pourrait du reste en parler encore une fois avec des personnes qui ne sont pas chrétiennes, un jour ou l'autre, je crois, dans notre vie, la nécessité de renoncer à quelque chose d'important, quelque chose de lourd, s'impose à nous, et c'est une tâche difficile. C'est quelque chose qui nous requiert, c'est quelque chose qui parfois nous gêne, parce que c'est une tâche, surtout quand c'est une tâche difficile. Et reprenons cette évocation de la mère de Croissy dans les dialogues des Carmélites, l'une des illusions qu'on peut entretenir, mais qui tombe très vite, c'est de penser que, à force de renoncement, on va y arriver, et surtout que le renoncement, ce renoncement volontaire, nécessaire, sera le dernier mot du renoncement. Or, le renoncement ne produit pas du détachement. Parce que pour se détacher, il faut encore vouloir le faire, il faut encore vouloir s'y mettre. D'où cette remarque de la mère de Croissy, le plus difficile, alors je le cite mal, je ne l'ai pas réécouté, toute l'affaire, c'est d'être détaché de son propre détachement, c'est-à-dire de soi-même. Alors, disant cela, en élément un petit peu épars, mais je pense qu'on a tous et toutes suffisamment d'expérience pour sentir que ça, d'une façon ou d'une autre, ça vient dans notre vie, on le rencontre dans notre vie, on l'a rencontré, on le rencontrera encore, j'en viens à cette chose étonnante que finalement j'annonçais au début, d'une pauvreté comme vertu. Et je précise que, à cause de ce que je viens de dire, que les vertus, on peut s'y exercer. Là, je prends les choses de façon très large. Ça ne veut pas dire qu'on gagne à tous les coups. Hein. Mais il reste que, par-delà nos caractères, bon, c'est sûr que si on est particulièrement colérique, la vertu de patience va être plus difficile que pour la moyenne, mais on peut tout de même s'exercer à certaines vertus, on peut tout de même tâcher de nourrir les vertus. Et là, je prends l'exemple de la patience, ça peut sembler une vertu un petit peu négative, surtout par rapport à un tempérament colérique, mais il y a bien d'autres choses qui sont beaucoup plus positives et beaucoup plus heureuses. Hein. Ce qu'on s'est un petit peu donné comme façon de parler des vertus, de ce qui fleurit en nous, c'est ce qui accompagne et nourrit la vie. C'est ce qui est de l'ordre de la fécondité de la vie. Ce n'est pas de l'ordre de l'exigence morale. Mais pour cette pauvreté, pour ce détachement, il apparaît donc qu'on peut s'y exercer. Ça a bien du sens. Ce que je veux souligner, c'est que la pauvreté telle que je veux la pointer est quelque chose qui fleurit, qui mûrit en nous. Ce qui me fait ouvrir une nouvelle parenthèse, si on a choisi ce thème cette année, et ce qu'on découvre, je pense, au fur et à mesure, c'est que l'oraison n'est pas un potager bien organisé. L'oraison est ce lieu, cette situation, cette habitude que l'on prend, cette attirance intérieure. On redescend régulièrement le chemin qui nous mène vers les eaux vives. On sait à peu près où elles sont, chacun pour soi, pour soi-même. En y allant, on réalise de mieux en mieux que, au travers de cette pratique, au travers de ce temps donné, au travers de cette décision, de ce rendez-vous, de tout ce qu'on veut, dans le fond, c'est surtout un accès que l'on vit, un accès que l'on redécouvre sans cesse, qui n'est pas menacé, même si parfois il est un peu plus difficile à retrouver que d'autres, et que cet accès nous fait nous approcher des racines de notre être, des profondeurs de notre être. De ce qu'il y a de plus en nous, à la fois de plus profond et de plus haute valeur. Là aussi où ce qui vient de l'extérieur, ce qui vient des autres, ce qui vient de Dieu, prend vraiment sa valeur, prend vraiment sa force, prend vraiment son poids. C'est dans ces régions les plus profondes de nous-mêmes que nous sommes aussi en mesure d'accueillir ceux et celles que nous aimons, ceux et celles dont nous nous inquiétons. Ceux et celles dont nous chérissons finalement l'existence. Et ce que je souligne là, c'est que l'oraison nous fait, est l'occasion de pressentir, de constater qu'il y a des choses qui mûrissent en nous. Alors qu'en est-il de cette pauvreté, puisque je suis en train d'avancer cela? Cette pauvreté, elle est en fait liée à la pauvreté même de Dieu. On est trop riche pour Dieu. Ça, c'est quelque chose, je crois, qu'on s'était déjà dit. Il y a beaucoup de choses que nous avons, il y a beaucoup de qualités qui sont les nôtres, il y a beaucoup d'expériences qui nous appartiennent, des expériences variées, qui sont très grandes valeurs, qui sont très grand intérêt, et dont Dieu s'intéresse très probablement. Auxquelles Dieu s'intéresse très probablement, pardon. Il reste que c'est pas non plus par là qu'on va attirer Dieu. Ou pour dire les choses autrement, Dieu ne vient qu'avec lui-même et il ne veut que nous-mêmes, finalement. Exactement comme dans l'amitié, exactement comme dans l'amour, on vient avec celui qu'on est, celle qu'on est, et pour rencontrer l'autre. Alors, bien évidemment, dans l'amitié, dans l'amour, ce que fait l'autre, ce que pense l'autre, ce qu'il a fait, ce qu'il a aimé, ce dont il a souffert, tout ça nous intéresse et ça nous touche et on veut le savoir. Et c'est du reste une marque très très forte de l'amitié comme de l'amour que de confier à l'autre ce qui nous est le plus intime et personnel parce que c'est ce que l'amour peut porter. Il reste que ce qui se noue dans ce cas-là, c'est la relation entre les personnes. C'est pour ça que j'en viens à dire quelque chose de somme toute assez simple, c'est que Dieu ne vient qu'avec lui-même. Et ça, on est loin d'en être persuadé. Et cette forme de pauvreté de Dieu, c'est un thème que. C'est pas moi qui ai inventé ça. Hein. C'est une expression de Alexandre Schmemann. C'est un théologien qui m'arrive parfois de vous évoquer. Théologien russe orthodoxe qui a vécu aux États-Unis et qui prenait ses vacances au Canada jusque dans les années 80. Il est mort dans les années 80. Cette pauvreté de Dieu, elle dit aussi quelque chose de la vérité de cette réciprocité entre Dieu et nous. Dieu ne vient pas pour nous combler de plein de trucs, plein de grâces. Dieu vient pour s'offrir lui-même à nous. Puis je peux même pas dire à nous, parce que nous, c'est générique, c'est général, c'est un pluriel, c'est très beau, hein. Mais il arrive un moment où il faut aussi que, en même temps que je dis nous, il faut que je dise je. Dieu veut s'offrir pas seulement à l'humanité, mais il veut vraiment s'offrir à chacun, à chacune. Et encore une fois, il s'offre, il ne nous gave pas de cadeaux. C'est lui-même. Et ça le rend pauvre, mais pauvre comme un enfant. Comme les enfants sont. Alors, je sais que dans nos sociétés occidentales, ça fait longtemps, puis j'en ai fait partie, puis peut-être même d'autres. Hein, ça fait déjà un certain temps qu'on donne beaucoup, beaucoup de cadeaux aux enfants. Qu'on gave les enfants de plein de choses. Sauf que moi, quand j'étais petit, j'étais ému de retrouver les quelques jouets en bois que mon père avait fait pour mes deux sœurs aînées, parce qu'à l'époque, il n'avait pas les moyens de leur acheter des cadeaux. Donc, il faisait un train en bois de ses propres mains, et puis ça leur servait pendant des années. Mais en arrière de ça, ce que je veux souligner, évoquant les enfants, c'est que il y a quelque chose de disponible chez les enfants. J'idéalise pas l'enfance hein, quand je dis cela. Hein. Il y a quelque chose d'un petit peu similaire. Quand je dis ça par rapport aux enfants, c'est aussi une image, c'est aussi une évocation d'Alexandre Schmemann, hein, qui dit que la Trinité Sainte est aussi pauvre qu'un enfant, qui a besoin de rien pour profiter de ce qui l'entoure. Il prenait ses vacances au lac Labelle, pour ceux qui connaissent, et il y avait ses enfants, puis ensuite ses petits-enfants. Donc il était bien placé pour voir de près. C'est un prêtre orthodoxe, donc marié avec des enfants. Il était bien placé pour voir de près comment se comportaient les enfants, surtout dans la chaleur de l'été canadien. Cette pauvreté de Dieu est une première chose. Ce qu'il y a en arrière de cela, ou plutôt ce que cela engendre, c'est que si Dieu vraiment se donne à moi, d'une part, il n'y a rien que je puisse faire qui me le donne à moi-même, d'autre part, il n'y a rien qui puisse me l'enlever. Ça, c'est quelque chose qui passe souvent dans les psaumes. Je pense au psaume 61, que vous connaissez probablement parce qu'il a donné, il a été en quelque sorte glosé dans l'un des plus beau refrain de Thésée, hein. Mon âme se repose en paix sur Dieu seul, de lui vient mon salut. Vous avez déjà entendu ce refrain de Thésée. La pauvreté, et je vais l'évoquer comme ça de manière un petit peu directe, la pauvreté, elle mûrit en moi lorsque je réalise que par-delà tous les efforts que je peux faire et qui sont bons, il y a en moi une capacité nouvelle, une disposition nouvelle à croire profondément, avec une profonde confiance, que Dieu ne peut pas me manquer. Et que, pourquoi l'appeler pauvreté? Parce qu'il y a tout le reste qui peut être là ou ne pas être là. On peut m'enlever tout le reste. On peut même m'enlever, et je pourrais me l'enlever moi-même d'ailleurs, malgré moi, d'une certaine façon, on pourrait m'enlever bien des choses, on pourrait même m'enlever la paix qu'au moment même où je découvre cela, je goûte. Même cette paix pourrait m'être enlevée. Mais la pauvreté mûrit en moi comme cette intuition, ce pressentiment, cette connaissance intime que si Dieu se donne à moi et me donne la vie, ça ne peut pas m'être enlevé. C'est d'ailleurs, c'est plus profond. Et que c'est à distance de. Ça n'est pas dans la prolongation de tous les efforts qui sont nécessaires que je peux faire pour mieux me comporter, que je peux faire pour me détacher de ce qui est inutile, que je peux faire pour me donner vraiment aux autres, que je peux faire pour aimer. Ça n'est pas le fruit de tout cela. Ce qui naît en moi, ce qui mûrit en moi de pauvreté, et peut-être pas sans rapport avec tout cela, mais c'est véritablement quelque chose que Dieu fait mûrir en moi. Et c'est pour cela que je l'évoque ici, parce que je disais plutôt qu'il y a des vertus sur lesquelles on peut travailler. Il y a donc des vertus. Alors est-ce qu'on forge les vertus? Ça fait un peu forgeron, ça fait un petit peu tout puissant, je suis pas sûr que ça marche très bien, mais il reste qu'il y a tout de même des choses que nous faisons dans nos vies dont on a quand même, avec un petit peu d'observation, on réalise que c'est pas sans rapport avec une vie qui est plus libre, qui est plus déployée, donc des vertus qui sont là pour la soutenir, pour l'aider à se donner. Il y a donc des choses qui sont de l'ordre de notre effort à cultiver en quelque sorte. Cette pauvreté est la découverte d'un état qui est ce que Dieu mûrit en nous. Encore une fois, ce n'est pas la suite de nos efforts. Et cette pauvreté, alors pourquoi on parlait de pauvreté? Parce qu'elle est un peu paradoxale, parce qu'elle ne me donne pas la possession de quoi que ce soit. Le propre de la pauvreté, c'est de ne pas posséder. Mais elle me fait vivre de façon nouvelle, heureuse, fraîche, neuve, apaisée, une relation à Dieu qui est vraiment gracieuse, qui est vraiment gratuite. Et est-ce qu'elle est fragile, cette relation? D'un côté, oui, de l'autre côté, non. Il y a un petit... C'est pas un paradoxe, parce que les paradoxes sont des choses de l'esprit, mais c'est plutôt une expérience vécue qui nous conduit, qui me conduit, parce que c'est chacun au profond de lui-même, qui me conduit à reconnaître que même lorsque je perds ce que je croyais avoir de paix, de certitude, de lumière, un tel moment, ce qui finalement revient, c'est Dieu lui-même. C'est la présence de Dieu en moi, c'est le don que Dieu fait de lui-même au plus intime de moi-même pour que j'aie la vie et pour que cette vie, je la partage avec lui. Et que on peut être submergé. On peut être complètement submergé. Que ce qui naît en moi, et c'est pour ça que je crois que ça a du sens de l'appeler pauvreté, c'est une capacité à vivre cet état de non-maîtrise, de non-possession. C'est un petit peu paradoxal, parce qu'à partir du moment où c'est une capacité, on peut prétendre la posséder. Mais on ne la possède pas. La pauvreté, c'est pour ça que je parlais de paradoxe à l'instant, mais on se méfie encore une fois, hein, les paradoxes, c'est des choses de l'esprit. Il reste que ça dit quelque chose. Ce qui est étonnant, c'est que je vis vraiment de façon apaisée cette relation à Dieu, et j'en viens même à envisager de façon assez paisible que je puisse être submergé, que cet état profond dans lequel je suis en ce moment puisse disparaître par le quotidien, puisse disparaître par la tempête, puisse disparaître par le souci, puisse disparaître par plein de choses, puis réparer, je ne sais même pas quand. Et que ce qui naît en moi, je ne peux pas le conserver par mes efforts, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'efforts à faire, mais les efforts, eux, ne peuvent pas porter là-dessus. C'est pas par effort que je peux rester pauvre. Parce que on comprend bien que s'il s'agit de s'équiper pour rester pauvre, ça veut dire que quelque part on va chercher des richesses, même si elles sont spirituelles. Il y a dans l'expérience de la pauvreté, parce que dans le fond, ce que j'essaie de décrire là, ce sont des éléments qui identifient une expérience. Il y a dans cette expérience que je viens à nommer, que je viens à reconnaître comme pauvreté, une remise vécue à Dieu, et l'assurance que cette remise, elle est de moi, mais elle est aussi... elle est de moi non pas parce que c'est un acte que je fais volontairement, que c'est quelque chose... Oui, c'est quelque chose que je cherche, mais si ça se produit en moi, c'est plus que le fruit de mes efforts. Il y a un mûrissement en moi. Mon être mûrit, et mon être mûrit certainement pas, même si ça en fait partie, certainement pas par les efforts, le soin, l'attention que je porte à ce qui se passe en moi-même. Ce qui est important, encore une fois, bien évidemment. Pourquoi cette pauvreté, je l'évoque et j'évoque comme quelque chose d'important, c'est que elle porte en elle-même le signe d'une œuvre de Dieu, d'une œuvre de Dieu qui fait mûrir en moi mon propre être, qui est plus puissant que tout. Et dont je jouis sans en avoir la possession. Parce que ça, c'est quelque chose, et je vous assure, si vous avez l'occasion, moi je vous recommanderais d'écouter cet opéra de Poulenc. J'ai pas l'intention de vous dire ça, mais ça me travaille depuis que je l'ai entendu dimanche. Je vous conseille d'écouter cet opéra de Poulenc, c'est une leçon de spiritualité. Je fais une petite parenthèse puisque je l'évoque depuis tout à l'heure. Les carmélites en question sont des carmélites qui ont été guillotinées durant la Révolution française, c'est pas les seules religieuses à l'avoir été, les carmélites de Compiègne qui ont été béatifiées. Fort bien, enfin c'est très beau comme histoire. Brugberger avait dans l'idée de demander à Bernanos d'écrire quelque chose, fort bien. Or, entre-temps, Bernanos, si jamais vous connaissez un petit peu cet auteur, Bernanos est quelqu'un dont la foi chrétienne très forte a été complètement transformée grâce à, c'est l'Esprit Saint foncièrement, mais grâce à Thérèse de l'Enfant Jésus. Il est probablement de ceux qui ont le plus vite et le mieux et le plus profondément compris la révolution spirituelle Non pas que faisait Thérèse l'enfant Jésus, encore une fois c'est l'Esprit Saint, mais que manifestait Thérèse l'enfant Jésus. C'est à travers toute son œuvre. De Sous le soleil de Satan jusqu'au journal de la curée de campagne, toute la vie de Barnanos est une vie qui est qui est bousculée, qui est complètement retournée parce qu'il comprend profondément de Dieu, de l'Évangile, du Christ, du don de l'Esprit, grâce à plein de choses, mais entre autres grâce à Thérèse l'enfant Jésus. Que d'ailleurs il cite à la toute fin du journal d'un curé de campagne, hein, « Qu'importe, tout est grâce ». Quelqu'un lui disait oh, « Georges, t'as vraiment bien fini ce roman ?» Il me dit « C'est pas moi, c'est la petite Thérèse, vous ne saviez pas ?» C'est de Thérèse. Et le dialogue des Carmélites est en fait quasiment un prétexte pour Barnanos, en prenant la très belle histoire, c'est une très belle histoire, hein, celle des Carmélites de Compiègne, hein, elle est bien documentée. Il la relie complètement à partir de ce que lui-même a compris de la vie chrétienne dans une vie incroyablement cloisonnée de l'époque. Cette explosion nucléaire que Thérèse permet, œuvre de l'Esprit Saint, qui fait tout voler en éclats pour qu'on retrouve vraiment la fraîcheur et la profondeur de la vie telle que Dieu la veut et telle qu'il nous la donne en Christ. Cette espèce d'explosion nucléaire, il la met dans l'histoire des Carmélites de Compiègne. Il lit l'histoire des Carmélites de Compiègne avec ces lunettes-là, en quelque sorte, mais ce n'est pas des lunettes, c'est tout simplement l'œuvre de la grâce, et c'est complètement sous-jacent. Et tout ce que je vous dis là, c'est quelque chose, c'est une des façons, ce n'est pas le seul fil, mais c'est l'une des façons, et c'est l'un des fils directeurs de ce dialogue des Carmélites. C'est pour ça que je vous citais mal, j'aurais mieux fait d'aller chercher le texte, ça aurait été plus clair, cette rencontre entre la vieille prieure et la jeune future religieuse, et cette prieure qui la barre un petit peu en lui disant ben non, le détachement ça se capitalise pas. Si la pauvreté se capitalisait, ce serait un peu paradoxal, les pauvres seraient des gens riches, ce serait un peu trop beau, mais malheureusement c'est pas vrai sur la terre et c'est pas plus vrai dans le royaume des cieux, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais ce que Barnanos relie et ce que j'évoque ici, c'est ce paradoxe que ce qui mûrit en nous, nous en jouissons sur le mode de la pauvreté, donc de la non-possession. Et nous jouissons à la fois de Dieu et de la vie qui peu à peu prend forme en nous, qui est notre vie alimentée par la vie de Dieu. Parce que dans le fond, c'est ça. La vie chrétienne, c'est hein, tu veux rendre l'homme à lui-même, comme dit une très belle hymne du Christ, roi de l'univers, qui s'inspire de Grégoire de Nazianze, donc ce n'est pas une invention récente. Tu veux rendre l'homme à lui-même. Et tout ce travail, toute cette œuvre qui est à la fois une œuvre de dépouillement et de restitution, qui est toute l'œuvre de la grâce, elle a ceci d'étonnant, c'est que nous sommes enfin rendus à nous-mêmes sans nous posséder nous-mêmes. Et nous goûtons, et c'est ça là, ce que je nomme vertu de pauvreté, même si ça peut sembler un petit peu provocateur de le nommer comme ça, cette vertu de pauvreté, elle est difficilement conceptualisable, envisageable comme un bien à atteindre, mais elle se manifeste lorsque nous réalisons que tout nous est donné gratuitement et nous ne sommes même pas encombrés par la possession de ce qui nous est donné. Parce que la possession de ce qui nous est donné, c'est nous-mêmes et la Trinité Sainte avec nous. C'est pour ça, je reviens à ce que je disais au début, c'est pour ça que Schmemann, il dit ça dans son journal. Donc c'était pas prévu que ce soit publié. Bon, il a peut-être dit en cours, mais en tout cas, il l'écrit aux gens dans le journal. Il le dit en étant bouleversé par ça. Il écrit son journal vers la fin de sa vie, quand même. Il dit, mais Dieu est incroyablement pauvre. Et nous n'arrivons pas à nous faire à la pauvreté de Dieu, à la pauvreté qu'est Dieu. Il évoque aussi la nudité de Dieu. C'est très étonnant. Dieu n'a rien que lui-même. Et ça nous semble trop peu. Alors, il cite Wedgley, qui est un poète russe, sauf que j'ai jamais réussi à retrouver le poème exact, mais c'est ça ce qui mûrit en nous, et voyez-vous, hein, racines, fleurs et fruits, bon moi je viens de faire mes semis, je sais pas ce que ça va donner, je suis pas très doué en jardin là, mais j'ai fait mes semis dans la cellule d'à côté là, en espérant planter un potager, donc en espérant récolter les fruits quand même là, et pas nous les faire boulotter comme l'an passé par les écureuils et les marmottes, y compris les marmottes à deux pattes, qui se servent de tomates lorsque les autres frères ont les dos tournés. C'est pour ça qu'on a mis une clôture électrique pour les marmottes, y compris à deux pattes. Mais ça n'a pas suffi, parce que je crois que le frère a trouvé l'interrupteur. Mais les fruits, lorsqu'on a choisi ce thème-là, c'est sûr que On est un petit peu motivé à l'idée que si on fait oraison, on va en récolter des fruits. Oui, probablement. Mais dans une mentalité un petit peu, voilà, si je cultive, je vais être récompensé. La pauvreté telle que je l'évoque, alors peut-être que ce n'est pas le mot de pauvreté qui finalement vous conviendra, mais ce que je souhaite surtout, ce que j'espère, c'est nous mettre sur la piste, non pas d'une expérience qu'on peut provoquer, mais de quelque chose qui pourrait bien nous arriver, qui en fait nous est certainement déjà arrivé, et en quoi il s'agit d'avoir confiance, hein, cette expérience de réaliser que tout nous est donné, mais que nous ne possédons rien, et que y a rien de précaire là-dedans, il n'y a pas l'idée d'une précarité. Parce que c'est quelque chose de très sûr. Il y a simplement non pas l'idée, mais cette réalité de ne pas être encombré d'une quelconque possession. Et cette deuxième touche que je souligne, que cette pauvreté, cet état heureux de pauvreté qui nous vient, qui mûrit, qui fleurit, parce qu'il y a quelque chose de beau là-dedans, en vient même à nourrir en nous cet apaisement que l'instant d'après, ou l'heure d'après, ou le jour d'après, je pourrais être submergé. Je pourrais tout perdre de vue. Je pourrais tout perdre de ce qu'il me semble en ce moment même, de ce dont il me semble en ce moment même disposer, jouir, c'est vrai. Mais plus secrètement, plus profondément, le don que Dieu me fait de lui-même, à l'intime de moi-même, je l'éprouve, je le ressens, je le reconnais là, mais il est plus profond que ce que j'en éprouve, ce que j'en ressens, ce que j'en reconnais. Et lui, il est sans retour. Il est sans retour. Et il me semble que cette vertu de pauvreté, elle protège-t-elle? C'est curieux parce qu'il n'y a pas plus. Si on parle de pauvreté, il n'y a pas moins équipé, il n'y a pas plus désarmé que la pauvreté. Mais il me semble que précisément par tout ce fait qu'elle est foncièrement l'absence de tout moyen, elle protège par la conviction intime qu'elle nourrit en nous, elle protège cette relation à Dieu, cette ouverture à Dieu, cette confiance profonde en Dieu, ce don à Dieu puisque Dieu se donne à nous.
Et là, elle goûte un je ne sais quoi qu'on trouve par aventure.
Vous avez écouté la 7e rencontre des soirées proposées dans le cadre de l'école d'oraison par Zoom et intitulée L'oraison racines, fleurs et fruits. Pour participer à la soirée qui comprend un temps de prière en commun puis un enseignement suivi d'un temps de questions, écrivez-nous à écoleoraisonzoom, tout attaché, @gmail.com. écoleoraisonzoom, @gmail.com. Cette activité est sans frais. Plus d'informations au sujet des écoles d'oraison animées par la famille du Carmel sur le site www.lecarmel.org. La poésie « Pour toute la beauté » de Saint-Jean de la Croix est mise en musique et interprétée par frère Pierre Eliane. Vous pouvez la retrouver sur les plateformes d'écoute en ligne. Merci de nous avoir écoutés.
Seul sans mémoire ni figure, sans le moindre appui quel qu'il soit, il découvre un je ne sais quoi qu'on trouve par aventure. Et ne pensez pas qu'en son cœur, où sont cachés tous les trésors, il trouve joie et réconfort dans ce qui donne ici la saveur. Ni passé, présent, ni futur, toute beauté passée déjà. Là il goûte un je ne sais quoi qu'on trouve par aventure. Cherche à s'avancer, mettra davantage de soin dans ce qui est encore loin qu'en ce qu'il a déjà gagné. Aussi pour une hauteur plus sûre, je préférerais aller là où m'appelle un je ne sais quoi.